d'hier à aujourd'hui, le meilleur de toutes les musiques, c'est sur MDM.
Mal, mais se porte quand même mieux avec La Poison, trio rock électro chimique sous haute influence B-52s, Alan Vega, Cramps ou Nina Hagen, que vous retrouverez samedi soir au Boulodrome des Arènes de Mont-de-Marsan dans la programmation du festival Murmure proposé par l'association Confluence Musicale. La Poison, constituée au chant et à la batterie de deux anciens membres du groupe Maximum Couette et à la guitare d'un certain Daniel Jamais. Alors le nom, comme ça, ne vous dira peut-être rien. Cette intro, sûrement plus.
Soleil.
Vous l'avez ? Daniel Jamais est en effet l'homme à la six cordes avec Manu Chao, derrière Malabida et tant de tubes de la Mano Negra, groupe avec lequel il aura donné en 5 ans plus de 500 concerts à travers la planète, dont un soir de juillet 1991 au Plumasson à Mont-de-Marsan, aux côtés notamment des Vampas ou des VRP. Clin d'œil de l'histoire, 32 ans après, l'artificier de la Mano retrouvera quasiment au même endroit ses anciens compagnons de route, le bassiste Joey Dahan, le guitariste Tom Darnall et le percussionniste Philippe Teboul, programmé le même soir dans leur groupe respectif. Juillet 91, pour Daniel Jamais, c'est aussi le début d'une histoire qui va s'écrire plus tard avec Mont-de-Marsan et le Café Musique, au sein de ses futurs projets scéniques, Flore del Fango, Pause ou encore la fanfare landaise éphémère du Precious Sunday Club, revisitant l'histoire du rock et dont il sera le directeur artistique. Mais Mont-de-Marsan, c'est avant tout ses festivals punk dans ses arènes.
Les arènes de Mont-de-Marsan, je m'en souviens. J'ai trouvé ça super. Les arènes, il y a toujours un côté, c'est le monde du spectacle, les arènes. Après, il y a un petit peu comme, je dirais le vieux théâtre romain, c'est un moment marquant, bien sûr. Et puis, il y a d'autres histoires qui sont marquantes avec le Mont-de-Marsan. Parce que j'ai un grand frère qui, lui, était punk en 76.
Ah,
et
ben
qui
oui.
était allé au premier festival punk de Mont-de-Marsan. Donc, ça m'avait tout de suite interpellé. C'est vrai que le jour où on voit sur sa feuille de route que la ville de Mont-de-Marsan est sur la liste, on se dit que bon, bah, on va aller faire un petit bout d'histoire rock là-bas. Quoi. Et il y a plusieurs reprises, hein, parce que finalement, il y a eu le Café Musique aussi pour la Flore del Fango.
Et oui.
Qui a été un soutien énorme de des équipes. Après, je sais pas, il y a eu un petit peu de changement. Je suppose, j'ai pas tous les noms.
Il y a quand même des gens qui étaient là. Je pense au technicien Domi Dussang. Je pense à Raja Ferchichi qui œuvre toujours dans les loges. Ils sont toujours là. Ils seront là samedi soir, j'imagine.
Il y avait Karine aussi, qui était un très grand soutien, avec laquelle on avait fait justement cette fanfare, qui était une expérience géniale pour moi, parce que des musiciens qui étaient amateurs mélangés avec des musiciens plus expérimenté pour les soutenir, pour les aider à avancer, trouver la décontraction de l'esprit, on va dire. Parce que c'était vrai que c'était un moment précieux.
Ça n'a pas été statique, hein, avec la Mano Negra, c'était un véritable tourbillon à l'époque. Je crois que c'est en 1993 où tu décides de quitter le groupe. Est-ce que c'est pour ces raisons, justement, où c'était les tournées, l'album et le sentiment non plus de plus avancer?
En fait, c'était assez mélangé. Il y avait beaucoup d'opportunités qui allaient se présenter pour chacun, y compris donc pour Manu, qui était la plus prometteuse, en tout cas. C'est pas que la Mano permettait plus de découvrir, c'est que justement c'était devenu un tremplin pour beaucoup d'envies, et ces envies, elles ne pouvaient pas forcément s'exprimer au sein même de la Mano, qui n'était pas un espace de censure, mais qui était un espace où toutes les vérités ne peuvent pas forcément s'exprimer en même temps, au même moment, quoi. Donc les velléités d'aventure personnelle se sont fait sentir, ce qui fragilise forcément un groupe. L'idée de Manu était pas idiote, mais nous, à l'époque, on la percevait pas aussi bien que ça. Il faut intégrer d'autres gens au sein de la Mano, et peut-être que les gens de la Mano n'ont pas besoin d'être tout le temps là. Dans un monde libéral, ça fait un peu flipper, parce qu'on se dit, ouais, quand je serai parti, il y aura quelqu'un d'autre à ma place, quoi. Donc, on préservait son espace de jeu, son espace de création, et une communication qui fonctionnait vraiment plutôt pas mal. Mais il fallait aussi expérimenter. Et puis finalement, moi, j'ai pas suivi. Je suis parti sur une autre direction. Je sais pas où je voulais aller, mais je sentais que j'avais des choses à dire autrement. Ça s'est pas fait comme je pensais. Ça se fait jamais comme penser. Comme on pense, c'est que le contre-coup d'une séparation est énorme au niveau psychologique. En fait, on vient de perdre quelque chose à laquelle on a consacré quasiment tout son temps, voire même une partie de notre vie privée, quoi. Pour moi, de faire arrêter le groupe, ça a été aussi le moyen de me retrouver un petit peu face à une inquiétude, un petit peu de sentiment de dire qu'est-ce que je vais faire. La vraie question, c'est finalement qu'est-ce que je veux faire de cette liberté que j'ai. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je veux dire, Joe, Philippe, on a fait la rue ensemble. Manu, c'était quelqu'un pour qui j'avais une énorme admiration et on est devenus potes grâce à la Mano. Senti, c'était l'éclat de jouer avec lui. Enfin, c'était une bande de potes. J'avais pas besoin d'aller jouer ailleurs. J'avais pas besoin de voir d'autres gens. Mais peut-être qu'on avait envie de préserver, de protéger cette histoire. Puis on s'était dit ça, on s'était dit, si à un moment donné, on le sent plus, on sent qu'on part plus dans la bonne direction, on arrête. Alors finalement, on était arrivé au stade où c'était une opportunité d'arrêter. Ça aurait pu être la même de continuer. Je pense que ça tenait à pas grand-chose.
Tout ça, les liens sont restés très forts, puisque Joe Dahan, que tu retrouveras d'ailleurs samedi soir, qui jouera également donc pour cette soirée pour le festival Murmure à Mont-de-Marsan. Philippe, que ce soit Philippe ou Joe, vous n'êtes jamais véritablement perdu de vue?
Non. Puis même Tom, on a fait beaucoup de choses.
Qui sera là samedi soir aussi?
Oui, c'est Tom et Philippe, ils jouent ensemble, ils ont monté leur groupe. En fait, on n'a pas arrêté de se voir. Et puis si, il y a des périodes d'un an, par exemple, où on est très occupés sur d'autres projets. Puis de temps en temps, quand ça nous prend, tous les 4-5 ans, on refait un rendez-vous patron, qui est un peu, c'est un groupe de reprise, mais dans lequel l'énergie de la Mano est... Et c'est quasiment le même moteur que celui de la Mano. Enfin, en grande partie, il y a une bonne énergie qui est très proche de celle de la Mano, c'est-à-dire l'énergie des gens qui se font confiance et qui se posent plus de questions, quoi. Il y avait un rapport à la confiance qui était hyper important dans la Mano. Quand on montait sur scène, on se sentait solide les uns avec. Ça a été plus difficile de retrouver ce genre de choses avec bien des gens, je dirais. La Mano, sur scène, on se plantait jamais, d'ailleurs. On était tellement en confiance qu'on se posait pas de questions, on jouait, on avançait tout droit. Et ça, c'est quelque chose qui était très, très difficile à retrouver. Tous les styles nous intéressaient en soi parce qu'ils n'étaient pas seulement des styles musicaux dont on apprécie la forme. Non, là, c'était, ils avaient tous quasiment le même propos quant à la dominance, l'injustice, la violence politique, la misère globalisée. On était vraiment très, très soucieux d'un monde qui s'ouvre. Sans frontières, mais finalement tout ça a été galvaudé et en même temps utilisé par d'autres, et puis on se rend compte aujourd'hui que maintenant tout le monde se renferme dans ses frontières parce que les populations étant montées les unes contre les autres par des manipulateurs de toutes sortes, hein. Je dis pas que les occidentaux, ça manipule dans tous les coins, et qu'on a plus cette vision-là et on a perdu cette espèce d'énergie qu'il y avait de croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, quoi. Ça, c'est, on est parti là-dessus, la Mano c'était ça, c'est un groupe qui disait putain on est le groupe de l'énergie, on va balancer l'énergie et avec tous les gens qui vont venir avec nous, on va avoir suffisamment d'énergie pour bousculer ce vieux monde qui s'endort. Et cette énergie était fabuleuse. Aujourd'hui, je pense que si la Mano rejouait, en étant consciente du monde dans lequel elle vit, évidemment, elle aurait un message pas plus nuancé, mais elle parlerait aussi de ce qui l'inquiète aussi aujourd'hui, quoi.
Les routes avec la Mano Negra se sépareront en 1993. 10 ans après, c'est un autre chemin que le guitariste va choisir d'emprunter, de la Mano à Mano. Mano solo, qui l'accompagnera jusqu'au décès tragique de cet artiste, au cœur pur, écorché vif et aux multiples fêlures qui auront marqué Daniel Jammet au fer rouge.
Le jour où Mano m'appelle, alors qu'on était, moi j'appréciais beaucoup Mano, j'étais pas toujours dans son univers, parce que il était c'est très lourd à porter. D'ailleurs, on l'a porté un petit peu ensemble. Et quand je dis lourd, c'est oui, c'est lourd pour un seul homme. Et qu'à un moment donné, c'est bien de se rencontrer. Moi, j'ai pu faire une rencontre privilégiée avec lui, même s'il était c'était un garçon difficile et qui pouvait être agressif des fois ou réactif, très violent, incompréhensible pour certains même. Même ses amis ne le comprenaient pas. Mmh. J'ai eu une relation privilégiée avec lui parce qu'en fait, il a essayé aussi avec moi, mais il n'y est pas arrivé. Peut-être parce que je me sentais pas en position de force ni en j'étais pas là dans une posture. Je disais, voilà, bah, je découvre ta musique, en fait, c'est génial, j'adore ton univers. C'est flippant par moment, mais voilà, ça fait bouger et la musique est belle et je veux bien bosser avec toi. Et bon, lui, il l'a pas pris comme ça parce que lui, c'était son propre univers. Il a cru que j'arrivais de façon très légère et en fin de compte, il n'y a pas eu de légèreté du tout entre nous. On rigolait beaucoup. C'est énorme parce que j'ai pu me marier avec ce mec qui pouvait flipper la terre entière avec ses propos. Il avait un humour incroyable. C'était un survivant permanent. Chaque jour était un jour de plus. Donc, finalement, on a énormément avancé. J'ai pu créer avec lui d'une façon presque plus partagée.
Il y a un album In The Garden où il t'avait même filé les clés du camion, puisque je crois que c'est toi qui l'a composé.
Oui, enfin, on fonctionnait dans un mode très libertaire avec Mano. C'était vraiment sa culture profonde. Il était profondément, lui, il n'a jamais été dans les jeunesses communistes, par exemple. C'est pas pour dire, mais il vient vraiment du monde purement libertaire, Charlie Hebdo, tout ça, son père, tu vois, c'est un monde qui est vraiment beaucoup plus proche de l'anarchisme, et le soft power de l'anarchisme, c'est la BD, l'humour et la littérature. Donc il est né là-dessus, tout en ayant un pied vraiment dans les classes ouvrières, parce que finalement il passait plus de temps chez les voisins qui habitaient dans un petit pavillon neuf, et qui n'étaient pas forcément des gens très cultivés politiquement, mais il avait aussi ce regard sur les gens, il dit voilà, c'est des gens, on pourrait peut-être les taxer de réac, mais quand tu les finalement, ils s'occupent de leurs gosses, ils te donnent à bouffer, le soir c'est téloche. Ouais, c'est relou, mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Des fois, les mômes, ils ont juste besoin de ça, plutôt que des parents qui tiennent des grands discours et qui te laissent dormir dans un coin un soir de réunion avec tous les participants d'Harakiri. Il était très, très partagé là-dessus. Donc, c'était intéressant parce que finalement, c'était un gars du populo, quoi. Vraiment dans le sens peuple, tu vois, ce peuple que tout le monde essaye de récupérer, extrême droite comme extrême gauche, tout le monde se met dans la poche. Lui, il venait de ça, Mano, tout en ayant un pied aussi dans une sorte de anti-élite de gauche libertaire, mais il avait un regard libertaire sur les choses. C'est-à-dire que quand on a travaillé en création avec lui, il m'a simplement dit, bah là, tu vois, j'ai fait mon tour de champ, j'ai fait ce que j'avais à faire, moi tout seul, Mano solo, j'en peux plus. On fait autre chose. Maintenant, on joue avec Emmanuel Cabu, quoi. C'était comme ça, c'est avec lui. Et du coup, ça a été un travail. Les deux albums qu'on a fait ensemble, plus une préparation d'un album qui sortira jamais, puisqu'on avait refondé non pas les Frères Misère, mais Misère Again, qui était une sorte de suite aussi, punk plus pop, plus facile d'écoute, on va dire easy listening rock, mais avec dedans du Mano, donc ça met tout de suite de la rugosité. Mano, tu lui fais un joli arpège de guitare, il chante dessus, ça y est, c'est rugueux, on est dans le punk. C'était Mano faisait forcément la différence à chaque fois qu'on faisait un truc. Il chantait un petit peu comme le chanteur des Undertones, c'était génial, j'adorais.
Fergal Sharkey,
dès qu'il chantait rock, il avait ce truc-là. Donc on était super contents, puis bon, il est décédé. Mais en attendant, moi, les dernières années que j'ai vécues, les trois années les meilleures que j'ai vécues avec lui, voire quatre, c'est dès qu'on a commencé à créer ensemble, composer, il laissait énormément la part belle, et puis quand tu trouvais ça nul, il dit je sais pas, j'aime pas ce truc-là, de toute façon, j'arrive pas à le chanter. Hop, on passait à autre chose, on s'attardait pas, l'ego n'avait pas sa place à 100%. Il fallait que ce soit toujours, c'est pas pour moi, c'est pour la musique, pour faire une chanson, parce que je veux que les gens la chantent, et avec moi, je veux les rendre heureux. Alors tout le monde disait, mais tu veux plus chanter sur ta souffrance, mais ça y est, bon, il y en a plein de disques de l'horreur d'être un jeune homme de 28 ans qui a chopé le sida et qui peut-être en mourir. Il dit, je suis un homme de 40 ans maintenant, je veux parler du bonheur d'être encore là, quoi. En tout cas, ça a été un grand moment, une grande souffrance aussi quand il est parti, pour beaucoup de gens. Et d'autant que, bon, personne n'a pu poursuivre son œuvre, puisque les biens d'exploitation de l'œuvre de Mano sont à la famille, et la famille n'a jamais été très encourageante pour Mano solo. Donc ce sera le public qui un jour dira, mais dis donc, il y avait un gars qui s'appelait Mano solo, on a envie de réécouter. Ça s'écoute encore un petit peu, mais je trouve ça incroyable comment il a été zappé de toute la toile. Alors si c'est parce qu'il faisait flipper, moi je trouve que les autres sont bien flippants aussi.
Ouais.
Au-dessus de l'amour, plein avant pour nous les vautours, les endurants, les résistants à la face du temps. Enfantin du soir au matin, ça nous va bien. Hey, c'est pas avec un six coups, mais avec six cordes pour le coup, qu'on avance en avalanche dans l'arène de la glu. On y laissera nos pompes et la crosse de nos fusils. Goya ne nous peindra plus, y'a longtemps qu'on l'a laissé pour foutu. Sur le pavé d'un enfer doré, les flammes de nos plaisirs brûlent encore au fond de bien des désirs. Il y aura toujours le sens du vent pour savoir contre quoi lutter. On y reconnaîtra les endurants aux flammes qu'ils ont sous leurs pieds.
Après la disparition de Mano Solo et un intérim scénique pour Gaëtan Roussel en compagnie d'autres ex de la Mano Negra, c'est depuis 2012 un autre enfant terrible de la chanson, le très radical et intègre Damien XVI, que Daniel Jammet accompagne sur scène dans le cadre de performances qui sidèrent encore le guitariste lui-même.
J'adorais le rock, le côté rock, les guitares à fond, mais la pression était énorme. Pour moi, à l'époque, j'avais jamais rencontré une pression aussi énorme, quoi. Même quand tu rentrais dans un stade devant 15 000 ou 40 000 personnes, t'as pas la pression comme ça.
D'accord.
Avec lui, la pression, tu l'avais constamment. Je me suis demandé pourquoi, j'ai compris aussi pourquoi, mais il m'a aussi dit pourquoi, il a été très honnête. Il m'a dit que pour lui, monter sur scène, c'est quelque chose qui était là, à la fois de l'ordre de la souffrance, de quelque chose d'insoutenable, jusqu'au passage sur scène. Et une fois qu'il est sur scène, c'est un peu comme on change de peau, quoi.
Ouais.
La transformation sur scène, c'est quelque chose qui lui coûte beaucoup. Et d'un autre côté, un mec qui fait des concerts 3h30, 4h, respect, quoi. C'est un peu normal de se dire, putain, je vais pas flancher, j'espère que je tiens. Est-ce que j'ai la force? Est-ce que j'en veux vraiment? Je sais pas, les questions qui se posent, elles sont personnelles. Et moi, je me suis posé aussi des questions. Mais une fois qu'on était sur scène, par contre, ça envoyait. Et ce public, il est incroyable. C'est un public qui n'est pas récupéré ni par les médias, ni par les réseaux sociaux.
Ça rappelle celui de TFN à l'époque, qui remplissait des stades sans avoir besoin de faire une seule interview ou quoi que ce soit.
Donc c'est vrai que c'est une expérience à chaque fois. J'en suis à ma sixième tournée, si tout se passe bien. Donc
ouais.
Avec lui, on ne sait jamais la veille du concert si on va le faire. C'est ça aussi qui est hyper déstabilisant. Et en même temps, ça crée une espèce de climat où tout le monde dit « Bon, bah, faut que je compte sur moi parce que personne va m'aider, là. » Tu vois, notion de groupe où tout le monde est en soutien de tout le monde. Là, c'est plutôt « Sois fort pour pas être un poids pour les autres ». C'est une autre façon de voir, c'est une autre pratique de l'anarchisme artistique, on va dire.
Ouais.
Alors, c'est chacun est responsable. Par contre, si t'es responsable, t'es un petit peu, je dirais, ton petit patron à côté du grand patron. Par contre, il te regarde un peu comme un prestataire. Si t'as pas fait le boulot, tu vas le savoir. Hein.
Ouais.
Tu vas pas prendre des dents.
Oui.
C'est pas la crise. Hein. Ça prend 5 minutes. Qu'est-ce que tu m'as foutu ce soir? Mais t'étais où? T'étais pas là, c'est
ouais.
Ça? Non, t'étais pas là, d'accord, c'était juste ton fantôme. Non, c'est tout ce que je voulais savoir. Et toi, tu prends ta claque, tu vas le voir après. Attends, j'ai dit tel et tel, je veux pas le savoir, je m'en fous. Tout. Et puis, une heure après, je viens de voir, je dis bon, ça va les gars, on va boire un coup, c'est fini, on s'est dit les choses.
On a crevé l'abcès.
On a crevé l'abcès. Et l'abcès, en général, il le crève à chaque fois, ce qui fait que tu te souviens. Hein.
Ouais.
Le lendemain, ton petit problème, tu vas le gérer autrement. C'est une autre façon de faire. Alors, moi, avec lui, par contre, j'ai pas été dans un process de création parce que lui, c'est son domaine. Toute sa musique, c'est lui, dans tout, intérieur, extérieur.
Ouais.
C'est ce qu'il a envie de faire passer. Et je pense que comme il est bon guitariste, il a pas vraiment envie d'entendre d'autres sons de cloche
ouais.
à côté de lui. Par contre, sur scène, il a besoin que ses guitares existent. Donc, c'est un rapport un peu spécial. C'est un peu comme dans la musique classique. Moi, j'ai un rôle, j'ai des partitions pour moi, les autres ont des partitions pour eux. Et quand il m'appelle, il sait très bien pourquoi. Je fais partie de ceux qui ont une part de mémoire de sa création.
De soutien aux créations de Damien XVI à sa propre récréation. Avec le groupe La Poison, à découvrir ce samedi 23 septembre sous le boulodrome de Mont-de-Marsan. La Poison, trio hypnotique, joyeusement nihiliste, semblant sortir d'un manga, un groupe du 21e siècle, comme il le dit lui-même, grimé aux couleurs de l'espoir dans un monde post-apocalyptique où Daniel Jammet est venu apporter sa pierre aux côtés de David, le batteur, et de Moon au chant. Et pour ainsi dire, une histoire de famille.
David, je le connais depuis qu'il est tout petit, vu démarrer, hein, c'est mon neveu, donc
ouais.
On a déjà une filiation de le départ. La musique, ça a commencé à 5 ans pour lui. Moon, je l'ai vu quand elle avait 17 ans dans un club. Je lui ai dit, t'es la Iggy Pop française, version femme. Et puis quand les deux se sont retrouvés ensemble en couple, j'ai fait, ah, c'est incroyable. Ils ont joué d'abord ensemble, puis après, j'ai dit, c'est incroyable. C'est les deux personnes que j'aime vraiment, pour qui j'ai une admiration teintée d'affection familiale presque. Et ils sont ensemble. Donc un jour, ils m'ont présenté leur projet qui avait déjà bien avancé. Ils m'ont dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Et je dis « C'est génial, électropop, rock, avec de la rugosité, mais personne ne fait ça, ça doit cartonner. » Je dis « Je vous soutiendrai, les gars. » En fait, si par exemple, on te proposait de jouer les morceaux, je dis « Quoi ? Vous voudriez que je joue avec vous ?» Mais je dis « Moi, je n'osais même pas vous le demander, parce
ouais.
que c'est vachement bien ce que vous faites. » Donc du coup, j'ai eu la chance d'arriver dans un truc où beaucoup de choses étaient avancées, puis on a fait avancer le truc, on a passé une année autour de l'ordinateur, à faire comme si on était sur scène. Et puis à un moment donné, on s'est dit, bah, on en a marre de rêver, on va sortir maintenant.
T'es quand même un peu le daron dans l'histoire, mais aussi l'inspirateur, ah bah oui. Parce que des groupes comme le Maximum Couette, dont ils viennent, tout ce mouvement, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, de Spook and the Guaymarus et tout ça, ça reprend les choses finalement un peu où la Mano les avait laissées, en plus fun, on va dire. On est dans la deuxième vague finalement du rock alternatif.
Oui, c'est ça. En fait, elle a pris par contre un tournant plus festif, ouais. Où des fois la référence Mano Negra était un peu galvaudée.
J'allais dire, tu te fais plaisir, ça voudrait dire que c'est pas le cas sur les autres projets. J'ai regardé les clips où dont le dernier en date, Besoin de réconfort, où Daniel Jamais joue un petit peu à l'acteur, Daniel Jamais se grime en vert avec les musiciens, voilà, on s'est plaise.
Ouais, c'était quelque chose finalement qu'on avait, on a toujours bien aimé se transformer, sans parler de transformisme, ouais. Mais d'ailleurs on les côtoie maintenant, on rencontre des tas de gens qui viennent de à leur façon pour changer leur image sexuelle et tout ça, et bah ça fait partie de notre théâtre. Moi, je considère qu'on vit dans un grand théâtre où tout le monde est habillé en costard cravate pour donner l'impression d'être sérieux, mais finalement il y a rien de sérieux tout ça. On est dans la mise en scène de l'information, on est dans un monde théâtral, et on se rend compte que dès l'instant où tu te peins en vert, on considère que c'est toi qui te mets l'extérieur ou qui essaye de faire l'intéressant. Mais on est dans un monde où tout le monde essaye de se rendre intéressant. Donc c'est aussi une façon un petit peu de bousculer des tas de... C'était pas pour faire Kiss, parce que c'était pas, ça n'avait pas du tout le même propos.
C'est pas pour faire Hulk de... non plus.
Non, mais ça, par contre, ça en faisait partie, parce que on est plein de comment dire, de mémoire, de souvenirs. On est plein de heroic fantasy dans notre ouais. tête. Et c'est aussi pour réveiller un peu comme la Mano le faisait, mais avec un argument différent.
Autrement.
Réveille l'enfant qui est en toi, l'être simple qui est toujours là, en fait, qui nous accompagne depuis le début, qui est notre petite voix intérieure. En fait, il y a un côté, quand je dis gamin, c'est pas gamin immature et débile mental. C'est que cette énergie qui nous pousse devant, c'est bien souvent cette énergie de l'enfant à l'intérieur, désireux de découvrir, d'apprendre, de jouer aussi. Et finalement, je pense qu'on a... On a pu s'inventer une histoire aussi, puis on avait envie d'inventer une histoire. Moi, j'ai regardé beaucoup de science-fiction, de tout, hein, même de la série.
Ouais.
On trouvait qu'il y avait beaucoup de messages hyper importants. Et nous, pour s'amuser, pour le fun, on s'est grimé parce qu'on avait inventé un personnage dans le futur qui devienne vert, couleur verte qu'on a. Et ce personnage qui a inventé Moon et qui est finalement la poison elle-même, elle est porteuse d'énormément de messages, ne serait-ce que cette poupée géante, est-elle extraterrestre, d'où vient-elle, elle est frisée comme une noire et en même temps elle est plutôt blanche de peau, elle a un accent qui vient d'où, pays de l'Est ou quoi. Ouais. Et tout ça, ça vient de toute une histoire qu'on a racontée, qui est écrite quand on est passé par un vortex, retour vers le passé, et on déboule dans un monde qu'on connaissait pas, mais sauf qu'on est devenu vert, quoi.
Ouais.
Et finalement, on n'est que des humains comme les autres. Et c'est ce que je disais à un ami noir, et je disais, tu vois, il me dit, mais toi, putain, mais il dit, t'es con, t'es blanc, c'est facile pour toi. T'as pas assez de problèmes comme ça, tu te peins en vert, tu sais, tu vas savoir ce que c'est le racisme. Et c'était marrant qu'il dise ça, parce que je dis, bah ouais, mais il dit, ce qui est dingue, c'est que d'ici des gens verts arrivaient, on en parlait comme ça, d'ici des gens verts arrivaient comme ça, mais même avec les meilleures intentions du monde, sympa, un peu paumé dans le cosmos, qui dit, on peut venir ici. Je pense que toute la planète, toutes les couleurs du monde se sentiraient menacées par cette verdure. Et c'est incroyable, ça ne créerait pas forcément tout de suite une mise à plat en disant, bah, finalement, on est tous les mêmes, qu'on soit vert, bleu, comme dans les Maîtres de la Galaxie, par exemple. C'est des choses qui sont très naïves, très innocentes, mais qui posent des vraies questions. Sommes-nous tous capables, finalement, non pas de nous tolérer, mais de nous accepter comme nous sommes, parce que finalement, on n'a pas tellement le temps, quoi. Alors, il faut faire vite, et faire vite, eh bien, c'est la seule solution. Donc, si on arrête de se regarder comme des extraterrestres, peut-être que finalement, on peut faire avancer des choses. Du coup, on a vu qu'il y avait une partie de notre public qui adorait le fait qu'on soit vert, parce que aussi, c'était une façon de dire, on est différent. On peut le montrer qu'on est différent. Et tous les gens qui ont une différence, justement, que ce soit les LGBT, queer et tout ça, qu'on a rencontré, avec qui on a fait un spectacle il n'y a pas longtemps au Transborder de Lyon, vous êtes comme nous, vous avez besoin de vous transformer.
Ouais.
Nous, on aime bien se transformer en femme parce que c'est notre truc, c'est notre sensibilité intérieure. Mais vous, vous avez aussi besoin de quitter votre peau pour aller dans un autre personnage. Oui, parce que ce personnage ne dit pas les mêmes choses. Il nous fait dire des choses que, justement, on a envie de dire, mais qu'en temps normal, on aurait l'impression que ce serait déplacé. Alors que là, du coup, ces personnages peuvent être porteurs d'un message qui n'est pas très politique. Ouais. Il est beaucoup plus de l'ordre de l'humain. Qu'est-ce que je fais, où je vais, tu vois, la grande question éternelle dans laquelle on est encore coincé aujourd'hui.
Sachant que personne ne sortira d'ici vivant.
De toutes les façons, oui. Et c'est peut-être ça qui est notre chance, c'est de... L'être mortel, c'est une issue qui nous fait toujours flipper, surtout pour les autres. Mais en soi, si on envisage cette vie avec cette fin au bout d'un moment, on se rend bien compte que c'est bien ça qui nous a déterminés et qui fait qu'on fait les choses avec tant de cœur.
Et la poison, c'est mortel.
Excellent jeu de mots. Ça, c'est par contre un véritable qualificatif pour la poison. C'est mortel. Notre subtile énergie bruyante, je crois que ce serait plutôt notre définition. Il y a de la subtilité, c'est un travail très réfléchi, mais ça fonctionne avec de la puissance et du son, quoi.
Les mots ont aussi leur importance pour ce pan humain de l'histoire de la musique et du rock en France qu'est Daniel Jamais, à retrouver dans le cadre du Festival Murmure à Mont-de-Marsan samedi soir à partir de 19h, où il retrouvera à l'affiche ses anciens acolytes de la Mano Negra au sein des Undergods et Joe Dahan et le Gonzo Club. En attendant la sortie du second album de La Poison, ce sera début janvier 2024, porté par un premier titre, le très à propos, besoin de réconfort.
MDM. On n'a pas inventé la radio, on l'a juste améliorée. MDM.